RFI, 7h42, en temps universel. Tout de suite, le journal des sports. Avec vous, Christophe Diremzian, du football et le football algérien et stéphanois qui perd l'une de ses légendes. Rachid Merloufli est mort à 88 ans.
Un attaquant qui a marqué et fait l'histoire véritablement au sens propre en club avec Saint-Etienne dans les années 50 et 60. Les premiers titres nationaux et grands moments européens des Verts, c'était avec lui. Et en sélection, lorsqu'en pleine guerre d'Algérie, au printemps 58, il quitte clandestinement la France pour rejoindre avec d'autres l'équipe du FLN avec qui il dispute plus de 80 matchs amicaux non officiel à travers la planète en soutien à la cause indépendantiste. Une période faste et enrichissante à tout point de vue, comme il l'avait expliqué en 2012 dans Radio Foot International.
Moi, personnellement, je m'excuse de dire moi, avec l'équipe FLN, j'ai tout gagné. Non seulement j'ai gagné la possibilité de pouvoir parler comme aujourd'hui je parle, ce que je ne faisais pas avant. Je m'implique superficiellement en politique. Je connais la politique, je connais l'économie. C'est-à-dire, ces acquis, je les ai obtenus grâce justement à cette équipe qui était constituée par des footballeurs, mais surtout des hommes qui m'ont inculqué justement cette chose-là. Mmh. En plus de ça, je me suis amélioré footballistiquement. Vraiment, vous pouvez pas vous imaginer que j'étais un joueur un petit peu dans la lune.
Dans la lune du succès.
Je demandais des ballons dans le dos, je marquais, puis c'est tout. Après 4 ans, je suis devenu un maître.
Rachid Merloufli est devenu également sélectionneur de l'Algérie à 3 reprises entre 1971 et 1982 et même un temps président de la fédération. Saint-Etienne l'avait nommé ambassadeur à vie en 2013.
Sur les terrains, c'est reparti pour une nouvelle saison de championnat au Niger.
Une Super League à 16 clubs, un de moins que l'an passé, engagé dans une course au titre détenu par l'AS Garde Nationale de Niamey. Au-delà de cet enjeu du sacre, la fédération espère que cet exercice 2024-2025 sera de la plus grande qualité de jeu possible afin de dégager une sélection nationale performante en vue du CHAN en février prochain. Omar Ima Souley est le président de la commission des compétitions de la FENIFOOT.
L'enjeu que nous avons, c'est d'avoir des bons joueurs en jambes parce que comme vous n'y aurez pas, nous allons jouer le CHAN. Nous avons deux finales que nous devons préparer à travers les matchs de la Super League. C'est ce qui fait que seront vraiment très très regardants dans l'organisation des différents matchs. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui à travers notre championnat Super League, c'est le CHAN. Nous aimerions avoir vraiment des joueurs aguerris qui feront leurs preuves par rapport aux différents matchs du CHAN et maintenant prétendre maintenant aller en équipe nationale. Comme vous le savez, l'équipe nationale A, c'est le summum. Pour moi, les 16 clubs de la Super League sont vraiment favoris pour ce titre. Parce que comme vous l'avez constaté l'année passée, vous avez vu comment les équipes ont joué. Donc pour moi, les 16 équipes de la Super League peuvent prétendre au titre de champion du Niger.
Et le match d'ouverture de cette Super League opposera le Sel Sporting Club à Liberté FC à partir de 15h30. TU.
Un crochet enfin par Abidjan pour du basket.
Les demi-finales de la division ouest de l'Elite 16, dernière étape avant la phase finale de la Basketball Africa League 2025. Les Camerounais de Kedji Sport Academy affrontent le Stade Malien et les Libyens d'Al Ahly Tripoli jouent contre les Ivoiriens d'ABC Fighters. Les deux équipes victorieuses valideront leur billet pour la saison 5 de cette balle.
Christophe Diremzian, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Les électeurs américains ont donc rouvert les portes du bureau ovale à Donald Trump cette semaine, un président qui ne s'est pas souvent distingué par la délicatesse de ses qualificatifs pour parler de l'Afrique. Les Africains doivent-ils s'inquiéter de son retour prochain à la Maison-Blanche ?
Seuls les Américains savent ce qui est le mieux pour leur pays. Ils l'ont élu, ils vont l'avoir. De par le monde, il en est qui s'en réjouissent en effet, mais il en est aussi qui s'apprêtent résignés à s'accommoder de la nouvelle donne à Washington avec un dirigeant prévisible pour le pire et le meilleur. Pour l'Afrique, cette élection n'aura aucune incidence déterminante, pas plus avec lui qu'avec Kamala Harris, présidente. Le président des États-Unis gouverne pour les intérêts de son pays et de son peuple. Quant aux réflexions désobligeantes de Donald Trump, si elles font mal, c'est parce que le chef d'un tel État ne devrait pas parler de la sorte des autres. Nombre d'autres dirigeants pensent comme lui, mais ne le disent pas. Ou alors à l'abri des caméras et des micros. La question fondamentale n'est donc pas de savoir pourquoi certains pensent tant de mal des nations africaines et le chuchotent à huis clos, mais ce que doivent faire les Africains pour inspirer un peu plus de respect.
Que doivent donc faire les Africains pour inspirer le respect?
Peut-être devraient-ils commencer par s'interroger sur la place de l'Afrique dans ce monde où l'on ne vous respecte que par rapport à ce que vous représentez et présentez comme intérêt. Où donc se pense aujourd'hui l'avenir de ce continent? Quel leader pour piloter une stratégie panafricaine dense avec un chronogramme rigoureusement respecté? Un continent sur lequel l'on fait silence partout où il est question de perspectives et de stratégies planétaires est un continent virtuellement perdu. Certes, quelques cercles de réflexion plus ou moins démunis analysent ici et là certains segments de la vie des nations, mais tout cela manque terriblement de moyens, de cohésion et de coordination. L'Afrique souffre d'un déficit chronique de dirigeants capables d'investir et de s'impliquer dans une réflexion d'avenir. Alors, chaque pays, chaque chef d'État s'agite dans ses limites géographiques étriquées pour des résultats aussitôt compromis par l'incohérence de tel ou tel de ses voisins, comme si le train du développement a jamais été bloqué, à quai, encore pire que ce que déplorait en 1962 le célèbre agronome René Dumont dans son ouvrage au titre finalement pas si violent « L'Afrique noire est mal partie ». Il faut se réinventer pour espérer se hisser durablement dans l'estime des nations.
Mais Jean-Baptiste, croyez-vous que cela suffira pour échapper aux propos désobligeants de certains?
Non, mais il faut au préalable ne plus prêter le flanc aux critiques faciles et parfois grossières. Ensuite, lorsque l'on scrute la prudence que met le même Trump à attaquer certains pays ou dirigeants, on comprend que certaines réalités lui imposent de la retenue. L'Afrique doit donc pouvoir peser véritablement dans l'économie mondiale pour compter. Avec toutes les ressources naturelles dont regorge son sous-sol et tant de minerais que convoite la terre entière, elle ne peut persister à juste exporter les matières premières sans même faire des réalisations pour faire fructifier les revenus des dites ressources. Si Donald Trump évite certains qualificatifs trop discourtois lorsqu'il parle par exemple de la Chine, c'est parce qu'il ne peut se le permettre. Les Chinois détiennent une part, certes décroissante, mais toujours appréciable, des près de 35 000 milliards de dollars de dettes américaines. Tout homme d'affaires lucide sait que l'on ne parle pas n'importe comment à ses créanciers ou à son banquier. L'équilibre de la terreur, jadis soutenu par les armements stratégiques et la dissuasion nucléaire, a aujourd'hui un pendant économique et financier tout aussi efficace, les finances, la puissance économique. Là où les Chinois, jadis indexés comme une bombe démographique à retardement, sont de fait devenus actionnaires des États-Unis, l'Afrique doit-elle continuer à n'être qu'une spectatrice passive de son destin?
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. C'est l'une des grandes inconnues d'ailleurs de cette victoire de Donald Trump. Quelles conséquences aura son retour au pouvoir sur les relations Chine-États-Unis? Déjà tendu, le spectre du retour d'une guerre commerciale entre Washington et Pékin planera sûrement sur un sommet où les deux pays se retrouvent dès demain, le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC, qui s'ouvre ce dimanche au Pérou. Bonjour Martin Chabal.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Correspondant d'RFI à Lima, le Pérou, qui va donc devenir le centre des échanges économiques entre l'Asie et les pays du Pacifique pour la semaine qui vient. C'est notamment l'occasion pour la Chine de continuer à placer ses pions sur le continent américain.
La Chine veut inonder le continent américain. Déjà premier partenaire commercial du Pérou, elle espère bien signer de nouveaux accords pendant cette semaine. Le tout dans le cadre des nouvelles routes de la soie, le cœur de la politique étrangère de la Chine. Ces routes commerciales tracées par Pékin pour faciliter les échanges avec certaines régions du monde. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de la venue du président chinois Xi Jinping à l'APEC. Cette semaine, Lima et Pékin vont profiter de l'occasion pour inaugurer un port de marchandises gigantesque sur les côtes péruviennes. Le port de Chancay, dans le nord de Lima, va devenir la nouvelle porte d'entrée de la Chine sur le continent américain. Un port où près de 1500 ouvriers ont travaillé 24 heures sur 24 pour faire sortir de terre ce mastodonte. C'est là que des navires de plus de 400 mètres de long, qui transporteront environ 18 000 conteneurs, débarqueront leurs marchandises.
C'est un projet immense, financé par la Chine, qui doit faire, on l'imagine, grincer des dents aux États-Unis.
Ce port est vraiment un symbole pour la région. Pour la Chine donc, mais pour Washington bien sûr. Les États-Unis, pourtant ultra présents sur le continent, voient leur influence reculer et ce sommet de l'APEC en est bien la preuve. Avec ce nouveau mégaport, la Chine va accélérer son entrée sur le marché, par exemple en livrant des milliers de voitures électriques chinoises par bateau. Pour l'un de ses derniers déplacements, Joe Biden va avoir fort à faire pour tenter de maintenir son influence sur la zone, bien qu'il tentera de maintenir les liens avec le Canada et le Mexique. Mais ça reste un sommet important pour que Washington et Pékin puissent continuer de discuter. Surtout que depuis l'élection de Donald Trump, le dialogue s'annonce plus musclé pour les années à venir. C'est en tout cas ce qu'il s'était passé lors de son premier mandat à la Maison-Blanche.
Et Martin, quid du Pérou? Pris dans ces dialogues entre superpuissances, le pays hôte va aussi devoir faire avec ses querelles internes.
Les Péruviens, eux, ne sont pas vraiment enjoués à l'idée d'accueillir ce sommet international. Le pays traverse une crise politique majeure, la criminalité augmente depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Dina Boluarte il y a maintenant presque 2 ans. Beaucoup de Péruviens préféreraient qu'elle s'occupe d'abord des problèmes internes avant de discuter avec la Chine. Pour protester, les syndicats ont d'ailleurs appelé à la grève générale la semaine prochaine, des manifestations qui risquent d'être réprimées dans la violence, comme l'a prévenu la présidente péruvienne, qui qualifie déjà les futurs manifestants de traîtres à la nation.
Martin Chabal au Pérou pour RFI. Merci beaucoup et bonne journée.
RFI Matin.
Et bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche à sa fin dans moins de 10 minutes. Mais d'abord ce samedi, le deuxième épisode de notre nouveau rendez-vous. Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup. On découvre chaque semaine un mot francophone au travers du témoignage d'un amoureux ou d'une amoureuse de la langue française.
Ce mot, alors moi je milite pour qu'il soit dans le dictionnaire, et de toute façon il va y arriver, parce que ça fait partie de ces mots français qui ont évolué, enfin les jeunes se sont appropriés tellement cette langue, et ce sont eux qui jouent avec le français et qui en font une poésie incroyable.
Ces personnages s'appellent Aya de Yopougon, Akissi ou l'inspecteur Kwame. Ils vivent à Abidjan et parlent un français relevé à la sauce nouchi, cette langue créée dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Une langue bien vivante, comme aime le rappeler celle qui s'est imposée comme l'une des auteurs à succès de la bande dessinée en France. Cette femme, c'est Marguerite Aboué. Je l'ai retrouvée chez elle, en banlieue parisienne, et elle a choisi de parler d'un mot qui lui ressemble.
Bonjour Lucie.
Bonjour Marguerite.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
J'aimerais vous parler du mot ambiancement, non seulement parce que je le trouve original, et je sais qu'il vient de ce fameux verbe inventé par les jeunes ivoiriens, s'ambiancer, qui vient aussi du mot français ambiance. Ambiancement, c'est l'art de faire la fête, de s'amuser, d'être toujours joyeux. C'est un comportement, c'est une manière de vivre. On est dans l'ambiancement comme on est dans la vie, parce qu'on prend tout du bon côté, avec légèreté. Et c'est un mot qui revient souvent en Côte d'Ivoire et qui a même traversé les frontières. Et on entend souvent ici en France, le nouchi, en tout cas une nouvelle génération, parle de ce mot avec délectation, dans un ambiancement totalement ambiancé. Quoi.
Ambiance.
Quand moi j'étais en Afrique, je connaissais le mot ambiance parce que justement mes parents écoutaient beaucoup la chanson qui parlait déjà de l'ambiance. Et c'est plus tard que les Ivoiriens l'ont décliné en s'ambiancer et ensuite ambiancement. Donc ambiancement, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai commencé à utiliser lorsque je suis retournée en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce que ce mot dit de vous, Marguerite Aboué?
Je pense que ce mot dit tout simplement toute cette double culture que j'ai en moi. Le fait d'être africaine, de culture européenne, française, ivoirienne. C'est moi, j'aime bien faire rire un peu les autres, mettre de la musique. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'on peut vraiment parler d'ambiancement, mais partout, même en courtisant une fille, même en étant avec un homme, on peut dire, mais on était dans notre ambiancement, on s'est ambiancé, hein, et ambiancé, ça peut devenir aussi très érotique. On s'ambiance et...
On s'ambiance avec la langue, en fait.
On s'ambiance surtout avec la langue.
Le mot ambiancement n'apparaît dans aucun dictionnaire. Seul le verbe ambiancer y est répertorié depuis 2017. Selon le Petit Larousse, il désigne en Afrique le fait de mettre de l'ambiance de l'animation quelque part.
C'était un mot, une histoire.
Lucie Bouteloup sur RFI. Et un peu de musique avant de nous quitter. Bientôt, 8h en temps universel. Et un phénomène de la chanson française. Est-il encore besoin de la présenter après son ascension fulgurante? Zao de Sagazan est partout et notamment dans la sélection des RFI Musique. Avec son nouveau titre Au Travers.
Au travers de l'humain, on comprend des choses controversant au travers. En vers ou bien en prose, regardez-moi de travers. Je prendrai la pose, moi je les aime mes travers. Donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose. Chacun s'installe des choses, traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause, c'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose.
Zao de Sagazan, au travers dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Voilà, RFI Matin touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à Christophe Pernet à la réalisation. On se retrouve demain, 5h, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Très bonne journée sur RFI.
C'est une histoire de famille, une histoire de travers. Une histoire de travers.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, un nouveau choc économique pour le monde après le Covid et la guerre en Ukraine. Trois grands économistes, l'américain Robert Gordon, le français Philippe Aguillon et le russe Sergueï Gouriev, analysent les conséquences multiples de cet événement.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Disparu le 3 novembre dernier à l'âge de 91 ans, Quincy Jones sera à tout jamais associé à son travail d'orfèvre aux côtés de Michael Jackson. Mais que retiendra-t-on de ses autres faits d'armes? Connaissons-nous vraiment son travail d'arrangeur, de compositeur et de chef d'orchestre? Réponse et hommage à cette personnalité unique qui s'est hissée au firmament des personnalités universelles.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.